Salut, c'est La Poulie, votre émission hebdomadaire sur Radio Primitive. Alors cette semaine, c'est pas une revue de presse. On va accueillir la Luciole qui va venir nous présenter, se présenter, puis nous présenter des événements. Et puis voilà, une semaine particulière puisqu'on est privé depuis cette semaine d'un de nos animateurs par France Travail. On espère qu'il reviendra bientôt. Et voilà, donc on va commencer avec la Luciole. Bonjour à tous.
Bonjour.
Je vais vous présenter.
Vas-y, Laurie.
Nous, on est Laurie, Cécile et Olivier. On présente la Luciole. La Luciole, c'est une association qui a pour but d'ouvrir un café-librairie à Reims, parce que c'est bien ce qui manque, un endroit militant à Reims. On pourrait offrir des éditions de livres qu'on ne trouve pas dans les médiathèques ou les bibliothèques traditionnelles, en tout cas pas facilement. Et nous éviter de commander sur Amazon à outrance. On vient pour présenter une projection d'un film qu'on va projeter le 5 avril au temps des cerises, un reportage qui s'appelle « Mégabassine, histoire secrète d'un mensonge d'État ». C'est un très beau reportage dans lequel on a un état des lieux, un petit peu de ce qui s'est passé autour des mégabassines dans les Deux-Sèvres, les tenants et aboutissants de ce projet insensé. Et à l'occasion, on a un invité assez particulier qui se déplace pour venir discuter avec nous de tout ça. Si Olivier, tu veux présenter notre invité?
Ben oui, donc on a le plaisir à cette projection qui sera là avec nous, c'est Jean-Jacques Guillet, un des porte-parole de Bassine Non Merci et des Deux-Sèvres. Depuis le début, Jean-Jacques et puis les autres, avec Julien Leguet et puis David Briveau, donc ce sont les véritables trois personnes qui ont lancé Bassine Non Merci, qui ont lancé la résistance dans le Poitou et dans les Deux-Sèvres. Donc Jean-Jacques est très pointu sur ce qui se passe là-bas, surtout sous le marais Poitevin. Donc il sera parmi nous pour partager le débat donc de ce film et puis voir un peu l'avenir qui va arriver sur Sainte-Soline pour le mois de juillet. Donc, on vous demande déjà de vous préparer à converger vers Sainte-Soline du 15 au 21 juillet pour la mobilisation internationale contre les mégabassines et la privatisation de l'eau.
Je complète juste ce qui vient d'être dit. Donc, moi, je suis Cécile de La Luciole. Donc, cet événement est organisé par La Luciole et Bassine Non Merci 0851, qui est une association, un collectif de personnes engagées et militantes autour des projets environnementaux qui sont complètement désastreux et destructeurs. Et donc cette projection aura lieu le vendredi 5 avril au chapiteau du Temps des Thrills à 19h. On aura donc au départ un accueil, on aura une petite buvette et de la restauration. On aura aussi une petite librairie puisqu'on sera toujours en partenariat avec chez Josette de Charleville-Mézières et la Belle Image qui nous fournissent en livres pour le moment puisqu'on n'a pas encore de librairie à proprement parler. Donc si vous voulez venir, vous êtes les bienvenus à partir de 19h. La projection aura lieu à 19h30. Prévoyez des espèces et de la monnaie parce qu'on fera passer un petit chapeau pour payer les défraiements de notre intervenant qui vient des Deux-Sèvres. Et puis après, la buvette, la librairie, tout ça, on paye en espèces parce que nous, on n'a pas encore la carte bleue et tout le tralala. Voilà. Sinon, on peut peut-être revenir un peu sur les événements qu'on a créés avec la Luciole. Donc, il y a eu un premier événement en novembre autour du 16 octobre 61 sur les massacres des Algériens à Paris. Et on a fait aussi un autre événement en janvier. C'était la projection du film All Clamors Are Beautiful, dont Laurie est la réalisatrice ici présente. Voilà. Et ça, c'est notre troisième événement. Et on va continuer, avant la projection, le 30 mars, samedi 30 mars, c'est-à-dire samedi prochain, à 14h30, vous pourrez également nous rejoindre. On sera en lien avec Bassine Non Merci aussi pour faire une formation juridique pour toutes les personnes qui militent, qui sont sur les manifestations. Donc, on apprendra à savoir ce qu'il faut faire quand on est en garde à vue pour pas se faire avoir par les flics ou autres.
Ok. Alors, au niveau des bassines, là, est-ce que vous savez s'il y a beaucoup de bassines en préparation est-ce que c'est majoritairement pour l'irrigation ou est-ce qu'il y a d'autres accaparements de l'eau qui sont en cours, je ne sais pas, par l'industrie
De dernières nouvelles, la semaine dernière, donc, il y a eu une fuite au niveau du ministère de l'Agriculture. Donc, concernant les bassines, il y aurait 300 bassines qui seraient en construction pour l'année 2024, enfin, des projets de bassines. Et donc, les plus grandes bassines, on vient de découvrir qu'il y a un énorme projet de maintenant, c'est giga-bassine. Donc, c'est dans le Puy-de-Dôme, entre Clermont-Ferrand et Moulins. Et là, tout de suite, on a lancé la mobilisation avec la Confédération Paysanne Soulèvement de la Terre et les Faucheurs Volontaires et puis d'autres associations qui vont nous rejoindre. Donc, ça sera le 11 mai dans le Puy-de-Dôme, donc contre ces gigabassines qui sont proposées par une multinationale qui s'appelle Limagrain, qui est la troisième multinationale au monde. Donc, eux, c'est pour irriguer du maïs et continuer l'agro-business, quoi. Et les autres méga-bassines, donc, c'est dans la saison 7 des soulèvements de la terre. Donc, il y aura des actions aussi en montagne contre les méga-bassines pour faire de la neige artificielle. Et ça, il y aura des actions à partir de l'automne 2024.
D'accord. Dans le même esprit, pour la lutter contre l'accaparement de l'eau, il y a aussi... quelques jours, un week-end d'information à Grenoble, je crois, autour de ST Micro, qui est une entreprise qui fabrique des puces électroniques qu'on retrouve notamment dans les engins de guerre et qui donc, elle aussi, veut construire des grands bassins pour utiliser de l'eau. Sachant que l'eau utilisée par cette industrie devient impropre à la consommation après son utilisation par ces entreprises, quoi. Voilà. Bon, je propose qu'on fasse une petite pause musicale, courte, mais dynamique. Toujours avec Bassine, non merci. Et la Luciole, surtout. Donc voilà, vous nous avez présenté l'événement à venir de la projection sur l'histoire secrète d'un mensonge d'État le vendredi 5 avril à 19h, donc.
Ouais.
Et la Luciole, alors quelle forme ça prend actuellement et quelle forme finale vous voudriez... que ça prenne. Est-ce que vous avancez sur le projet de librairie café
Bah, oui, on avance à notre rythme. C'est-à-dire qu'on n'a toujours pas l'intention de demander des subventions. Donc, pour le moment, le gros problème, c'est de savoir comment on va financer un local. Mais on prend des informations à droite, à gauche pour savoir comment on peut être aidé. Il y a chez Josette à Charleville-Mézières qui va nous donner quelques conseils. On se rencontre cette semaine. Ils vont nous expliquer comment eux, ils ont réussi à financer le local. Ils sont en location aussi. Et puis, on a quelques pistes, mais pour l'instant, pas grand-chose de concret à pouvoir expliquer comme ça à la radio. Nous, on compte surtout sur cette année se faire connaître, c'est-à-dire créer des événements aussi qui permettent de rassembler les gens et puis de discuter de choses importantes pour nous. Donc, on organise ces événements-là. On va aussi se rejoindre le 16 mai pour une conférence sur l'Eurojava avec... comment il s'appelle déjà avec un Kurde. Le représentant des Kurdes à Reims qui va faire venir un intervenant aussi pour nous parler du Rojava, parce que c'est quelque chose aussi qui nous intéresse et qui peut être très porteur en termes de réflexion politique et philosophique. Et puis, on va aussi être présent sur la... C'est quelque chose de plus anecdotique, mais on sera aussi présent sur la brocante de Tinqueux le dimanche 7 avril. Donc, vous pourrez nous rejoindre. On aura un stand La Luciole où on va vendre des objets qu'on nous a donnés qui permettent de rassembler un peu de fonds pour mettre de l'argent de côté pour notre projet. Et puis aussi, bah, on va vendre des livres, on va faire du café et puis se rencontrer. Vous pouvez aussi nous rejoindre sur notre groupe Facebook qui s'appelle La Luciole de Reims et sur Instagram qui s'appelle également La Luciole de Reims. Donc voilà, cette année, on met surtout en avant des outils de communication et puis des événements pour se faire connaître. Mais on n'a toujours pas de local. On ne sait pas trop comment ça va se passer. Voilà, on attend quelques infos à venir d'ici quelques mois.
D'accord. Et est-ce qu'on peut vous faire des dons, par exemple ?
Alors, évidemment, vous pouvez nous faire des dons. On aimerait bien même, par exemple, mettre en place une possibilité de faire des prêts, peut-être à taux zéro, quand on aura vraiment ficelé le projet. Parce qu'à Charleville, c'est ce qui s'est passé. Des militants ou des adhérents ont fait des prêts qui ont été remboursés dans l'année pour pouvoir financer le local. Mais vous pouvez aussi nous faire des dons. Et pour ça, bah, vous mettez en contact avec nous, soit par Facebook, soit par Instagram, ou vous nous envoyez un mail à l'adresse laluciolederins@proton.me. Ou alors, vous venez nous voir vendredi 5 avril au Temps des Cerises à 19h. Ou bien samedi 30 mars à 14h30 au chapiteau du Temps des Cerises ou à la brocante le 7 avril.
Ouais, ok. Préciser peut-être que le chapiteau du Temps des Cerises, il se trouve rue Marie-Dominique Mingot, donc c'est près de l'hippodrome à Reims, quartier Croix-Rouge. Voilà, c'est très sympa.
Ouais, c'est très sympa, c'est beau, c'est un chapiteau.
On les remercie déjà de nous accueillir. Hein.
Ouais.
Donc on remercie tous les copains du Temps des Cerises hein, qui nous accueillent pour cet événement. Et donc, puis les prochains événements aussi. Hein. Donc,
ouais. Surtout qu'ils n'ont pas encore ouvert leur saison, ils nous prêtent le chapiteau voilà. Comme ça avant l'ouverture de la saison, c'est super sympa.
Ouais.
Okay. On va refaire une petite pause musicale. Hop, alors, attention les oreilles.
En prison, ça coûte 150 euros par jour, donc il faut faire 150 fois 20 fois 365. C'est une fortune. En fait, ce qu'il y a de moins cher, c'est que vous mouriez tout de suite.
C'est encore un nouvel événement qui aura lieu le 1er mai.
Le 1er mai, c'est ça, également au Temps des Cerises. On accueille le film de Caroline Mansour qui s'appelle Aïda Return, le retour d'Aïda. C'est une dame aux origines palestiniennes qui a vécu plein de choses dans sa vie. Le film vacille entre l'arabe, l'anglais et le français. C'est un très beau film qui raconte... le deuil de cette personne, ce qui est la grand-mère de la réalisatrice. Et avec sa famille, ils vont ressemer les cendres dans son pays natal. C'est un très très beau film qu'on a envie de projeter, qu'une jeune fille nous a proposé de projeter à Reims. La réalisatrice sera sûrement présente, on attend encore confirmation. Et pour l'occasion, on aimerait, avec Urgence Palestine, organiser un petit buffet spécialité palestinienne. Voilà, puisque le Temps des Cerises possède aussi une petite cuisine, on a l'espace, le temps et les moyens de proposer ce genre de choses. Donc ça peut être super sympa de se réunir autour de cet événement. Voilà, c'est le 1er mai à 17h.
Ok, bah super, merci. On va se laisser là pour la Luciole. Et puis, voilà, on va refaire une petite pause musicale, peut-être un peu plus longue, si je trouve. Je vais vous lire quelques extraits d'un article qui est paru dans manifeste.info, manif-est.info, un article sur le maire de Reims, Arnaud Robinet, titré « Arnaud Robinet, maire de Reims, se rapprocherait-il de l'extrême droite ?» Je vous livre des extraits alors de cet article. « Deux mandats, une priorité, la sécurité. » Le 17 octobre, suite à l'assassinat du professeur Dominique Bernard à Arras, Arnaud Robinet publie une tribune dans le journal du dimanche. Dans un discours au ton résolument guerrier, il y appelle notamment à faire des maires les fantassins de la République contre l'islamisme, affirme qu'il est minuit moins une pour la civilisation judéo-chrétienne, et réclame notamment le développement massif de la vidéosurveillance ainsi que de l'octroi de moyens supplémentaires à la police municipale pour lutter contre le terrorisme. En janvier 2023, le média Street Press publie une enquête révélant une discrète collaboration entre Thales, industrie française et l'un des leaders mondiaux dans le secteur de la cybersécurité, de la défense et la municipalité de Reims, dont l'opposition et les citoyens n'avaient à l'époque pas été informés. Une expérimentation de son produit Savary, une solution algorithmique permettant de détecter automatiquement la formation d'attroupements ou d'intrusions, d'identifier des armes ou des véhicules, ou encore de surveiller le trafic routier et les stationnements, aurait été initié en 2021 en profitant du flou juridique autour de la législation sur la vidéosurveillance algorithmique, pour une durée d'un an. Elle aurait en réalité duré quelques semaines avant l'arrêt du projet par Thales. S'il reconnaît l'existence de ce dispositif, le maire dément dans un communiqué publié le 30 janvier toute exploitation à des fins de vidéoprotection, visant selon lui uniquement à faciliter la relecture des vidéos dans le cadre très strict des réquisitions judiciaires, c'est-à-dire à simplifier et accélérer les enquêtes par une analyse automatisée des enregistrements vidéo. Il affirme pourtant continuer à rechercher une solution similaire et adaptée à l'important nombre de caméras qui profitera aux forces de l'ordre, réitérant sa volonté de faire de Reims une ville sous haute surveillance intelligente. Voilà, 300 caméras de vidéosurveillance à travers la ville, gérées par un centre urbain de surveillance, auxquelles viennent s'ajouter les caméras du réseau de transport Citura, aujourd'hui Grand Reims Mobilité. Au cours du conseil municipal du 20 mars 2023, c'est d'ailleurs une hausse de la délinquance qui est évoquée, 8% de plus qu'en 2021, venant contredire la prétendue efficacité dissuasive de la vidéosurveillance à travers la ville. La vidéosurveillance ne s'attaque également qu'à la délinquance de rue et ne peut servir à lutter efficacement contre les violences conjugales et intrafamiliales, les délits impulsifs, agressions, risques ou encore le terrorisme. Si elle sert aujourd'hui à Reims à effectuer la vidéo-verbalisation, ce dont la municipalité ne se vante pas ostensiblement et dont les résultats semblent faire l'objet d'une communication plus réduite, la législation, elle, évolue. Après l'approbation en juin 2023 à l'Assemblée nationale de l'expérimentation de la vidéosurveillance algorithmique portée par la majorité et notamment soutenue par le RN et l'ensemble de la droite, l'utilisation future des caméras laisse planer de réelles menaces et inquiétudes sur le respect de la vie privée des populations. Comment donc garantir que la surveillance biométrique ne soit pas dans le futur utilisée de façon systématique par les caméras rémoises dans l'hypothèse où cette expérimentation verrait son utilisation entérinée puis dévoyée. Deux mesures phares interpellent. Le doublement des effectifs de la police municipale, 131 agents en 2023 contre 60 en 2014, car nos robinets souhaitent porter à 200 et leur équipement en armes létales. À Reims, la police municipale s'est d'ailleurs déjà illustrée pour avoir outrepassé l'exercice de ses fonctions en assurant une mission de maintien de l'ordre que ses agents n'ont pas eu le droit d'exercer lors de la manifestation des Gilets jaunes du 18 mai 2019. Voilà, donc c'était quelques extraits d'un article paru sur manif-est.info. Alors apparemment, c'est un article en trois parties. Donc là, ce serait la première partie de le premier volet de cette enquête. Et voilà, donc la suite risque d'être croustillante. Allez, une petite pause musicale. De retour dans la poulie, j'avais pas coupé le micro, et voilà, donc on a un autre article également dans manifeste.info sur les expropriations à Bure. Donc voilà, le mois de mars a commencé sur les chapeaux de roue à Bure, entre la période de plantation des semeuses dans les champs et la semaine de chantier sur les différents lieux. Et les préparatifs pour les rencontres printanières d'avril, s'est ajoutée la procédure d'expropriation lancée par l'ANDRA pour obtenir par la force de nombreuses terres nécessaires à son projet immonde de poubelle nucléaire. L'ANDRA a récemment déclaré qu'il y aurait 300 propriétaires concernés par cette phase d'expropriation, sachant que parfois, il y a plusieurs propriétaires sur un même terrain, héritage partagé dans une famille, SCI, etc., pour 550 parcelles concernées. Après les recommandés reçus par l'État début mars, l'ANDRA donne un mois aux propriétaires concernés pour répondre ou ne pas répondre à son courrier. Elle cherche à la fois à s'accaparer 100 hectares de parcelles souterraines et 186 hectares de parcelles de surface. Donc voilà, c'est encore l'État nucléaire qui souhaite construire à toute force sa poubelle, bien que les tunnels, alors que c'est encore qu'un centre d'études, s'effondrent déjà. Qu'il y ait déjà eu des morts dans ces tunnels. Il y a à peine 2 km de galerie et ils doivent en construire 500. Enfin, voilà. Donc là, ils achètent la surface et aussi le fond. Donc ils proposent à beaucoup de gens de racheter que le sous-sol pour leur laisser l'usage de la surface. Voilà, donc c'est un plan bien connu pour s'approprier les terres. Hein. Il y aura des déchets nucléaires en dessous, mais on vous laisse cultiver vos légumes dessus, quoi. Voilà. Bon, bah écoutez, on va se laisser. Hein, c'est la fin de la poulie pour cette semaine. Et puis, bah, à la semaine prochaine.
Pour rester encore au pouvoir, c'est les flics militarisés, robotisés. spectateurs.